Attention, nous commençons dans un quart d'heure.
Mais même si tu n'étais pas ici maintenant, même comme si j'avais une ombre de plus, une deuxième âme, une. Et de quoi s'agit-il ici en fait ?
Gide disait, on a le public qu'on mérite. Et je crois que c'est une très bonne définition. Et nous voudrions que le théâtre que nous aimons soit le théâtre populaire.
Ce n'est jamais un comédien, ce n'est jamais un régisseur ou un metteur en scène qui provoque une révolution profonde des techniques du théâtre, c'est toujours un auteur.
Bonjour, bienvenue à tous en direct et en public dans la calade de la maison Jean Villard pour cette nouvelle émission de On commence dans un quart d'heure. Nous recevons aujourd'hui deux metteurs en scène qui montent Jean-Luc Lagarce dans le off. Pierre Note d'abord, bonjour.
Bonjour.
Pierre Note qui monte avec sa compagnie qui s'appelle Les gens qui tombent noces jusqu'au 30 juillet, donc c'est au théâtre du Roi René. Jean-Charles Mouveau, bonjour.
Bonjour.
Alors vous montez avec l'équipe de nuit et comme en 14, juste la fin du monde, toujours un texte de Lagarce. Et ce soir d'ailleurs, je signale que vous êtes en relâche, Jean-Charles Mouveau, et qu'il y a à la place une lecture d'un texte de Pierre Note qui s'appelle « L'effort des spectateurs » qui est paru au Solitaire intempestif dans la collection « Du désavantage du vent » en novembre dernier. Et évidemment, on en parlera un tout petit peu, vous me parliez de cet ouvrage Pierre Note, ou je ne sais pas qui fait la lecture, si c'est...
C'est les textes et lectures de Pierre.
D'accord, donc vous pourrez nous en parler à ce moment-là. Alors, Jean-Luc Lagarce, c'est évidemment un des auteurs contemporains, sans doute les plus importants de sa génération et en même temps de notre présent théâtral, puisque c'est un auteur qui est beaucoup monté, beaucoup joué par de nombreuses compagnies. Mais sa présence au Festival Off et dans des théâtres aussi importants que le Petit Louvre ou le Théâtre du Roi René signifie vraiment quelque chose à mon sens. Et donc c'est de ça que nous allons essayer de discuter ensemble pendant cette heure de direct. Alors Jean-Charles Mouveau, vous connaissez bien Lagarce, entre guillemets, puisque vous avez interprété des textes du luxe et de l'impuissance, donc c'est un collectif de textes, d'aphorismes de Jean-Luc Lagarce que vous avez joué en 2014 et en 2015 au Festival d'Avignon et que j'ai revu deux années de suite tellement je l'aimais.
Merci.
Et vous aviez déjà monté juste la fin du monde en 2005, que vous aviez joué jusqu'en 2007. Et en 2007, vous aviez monté Retour à la citadelle de Jean-Luc Lagarce. Encore fait une création à partir de trois nouvelles de Lagarce, trois récits. Toujours en 2007. Et quant à Pierre Note, je vous présente rapidement pour nos auditeurs. Donc vous êtes metteur en scène, mais également écrivain. On a évoqué la parution de votre livre « L'effort des spectateurs », mais vous êtes écrivain dramatique, parce que « L'effort des spectateurs », c'est une sorte d'ouvrage théorique, mais c'est aussi une œuvre d'écrivain, évidemment. Et vous êtes traducteur aussi. Vous avez traduit dernièrement « Vera » du tchèque Petr Zelenka.
Traduit, pas tout à fait, adapté.
Adapté,
depuis la traduction de Elena Slonekova.
Voilà, qui était à l'affiche, on l'a vu à Lyon, nous, au Célestin, ce spectacle.
Et qui sera à l'affiche à Paris l'année prochaine, au Théâtre de Paris, oui.
Alors, tout d'abord, on va commencer à rentrer dans le vif de Lagarce, enfin, si on peut rentrer dans le vif de Lagarce, entre guillemets, puisque le jeu de mots est un peu plaisant, mais disons que c'est un auteur à vif, hein, puisque c'est une langue qui est toujours... découpé, fragmenté et qui raconte quelque chose de notre expérience du réel, qui nous parle à tous. Et j'aimerais qu'on commence nos questionnements par une phrase qui est tirée du luxe et de l'impuissance. Et sans doute que Jean-Charles Mouveau, je vais lire le début, Jean-Charles Mouveau pourra nous dire la suite parce qu'il s'en souvient sans doute.
Je me souviens du texte.
Alors, raconter le monde, ma part misérable.
Ah, ma part misérable du monde, oui, ça, c'est... Oui. Ben, je ne peux pas vous le lire en entier parce que le texte est un peu parti.
Je vous laisse le lire parce que vous...
Raconter le monde, ma part misérable et infime, la part qui me revient, l'écrire et la mettre en scène, en construire à peine, une fois encore, l'éclair, la dureté, en dire avec lucidité l'évidence.
Voilà, donc là, c'est vraiment
c'est la définition
du théâtre de Lagarce. Et S'il y a entre Nos et entre le texte de Jean-Luc Lagarce, Nos que vous montez vous, Pierre Note, et Juste la fin du monde que vous montez, Jean-Charles Mouveau, il y a des différences évidemment, mais je trouve que dans ces deux textes, il y a une filiation à ce que Lagarce appelle une lucidité évidente. Et donc Nos, c'est apparemment, en tout cas quand on le voit comme ça, une espèce de satire féroce, une comédie loufoque. Et Juste la fin du monde, c'est différent, c'est vraiment une illumination impossible et finalement à sa façon une sorte de satire de l'impuissance. Et je me demandais par rapport au projet de Lagarce que Jean-Charles Mouveau, vous venez de nous lire, qu'est-ce que vous avez voulu raconter de Lagarce en mettant en scène ces deux pièces qui sont particulières dans le répertoire du théâtre français aujourd'hui?
C'est à toi que la question.
La question est posée
aux deux, mon cher ami. Moi, j'ai un rapport très très particulier à Jean-Luc Lagarce et à cette pièce en particulier que j'ai montée déjà, vous l'avez dit, il y a 12 ans, un peu plus de 12 ans maintenant. Moi, cette interrogation, c'est-à-dire de sa place dans la cité, la place dans la famille, la place, son positionnement en fait, qui c'est très présent dans Retour à la citadelle également, avec une dimension un peu plus politique, j'allais dire. Voilà, c'est ça, moi, qui me... Et puis le sujet familial, c'est un sujet qui me fascine, définitivement, voilà. En ce qui concerne, je veux dire, mon attirance pour l'œuvre de Lagarce. J'irais plus, c'est vrai, il y a des textes que je pourrais pas monter de Lagarce. Peut-être un peu plus... Peut-être que je les comprends moins, tout simplement, en fait. J'arrive pas, il n'y a pas d'affection avec ça, comme la photographie ou les choses comme ça. Voilà.
Pierre Note, quel est votre regard sur...
En ce qui me concerne, c'est la compagnie La Porte au Trèfle qui a porté ce projet de Nos, qui est une pièce qui date de 1982. J'ai un rapport personnel, singulier, intime, privé à l'œuvre de Lagarce, mais Nos n'est pas une pièce que je connaissais, que je n'ai découverte que grâce à la compagnie La Porte au Trèfle, qui est implantée dans le Nord, région Pas-de-Calais, Boulogne-sur-Mer, Calais, etc. Et à un moment donné... Il était question pour eux de monter une pièce, mais qui ne serait pas forcément en rapport avec la situation locale, parce que c'est une situation douloureuse, tendue, à vif. On leur demandait peut-être de s'intéresser à des classiques, à quelque chose d'un peu extérieur à la situation. Et ils ont choisi un classique, ils ont choisi Nos de Lagarce, qui ne raconte rien d'autre que l'aventure d'individus qui veulent absolument intégrer une fête à laquelle ils n'ont pas été invités. Alors évidemment, c'est féroce, c'est mordant, c'est terriblement politique, puisque quand ces individus intègrent enfin cette noce à laquelle ils ne sont pas invités. Ils l'intègrent d'abord au prix de violences terribles, grand fracas, meurtre, mise à sac des salles successives qui les conduisent à la noce. Et ensuite, quand ils ont atteint cette noce, ils entendent autour d'eux d'autres individus qui veulent eux aussi être invités à la noce à laquelle ils n'ont pas été invités. Autrement dit, compte tenu de la situation de locale même de la compagnie La Porte au Trèfle, compte tenu de ce que nous connaissons aujourd'hui, la pièce de Jean-Luc Lagarce, 1980, est d'une terrible violence aujourd'hui, est d'une terrible, on dit ça, actualité. Alors que, bon, évidemment, il est question de tout. Il est question de l'accès à la démocratie, de l'accès à l'argent, de l'accès aux moyens, de l'accès à l'amour, de l'accès à la paix, de l'accès simplement à l'harmonie sociale, de l'accès à l'égalité, de l'accès à la liberté, de l'accès à la fraternité. Mais c'est une pièce terriblement politique. Mon rapport privé à Jean-Luc Lagarce n'a rien à voir avec ça, puisque pour ma part, j'ai été bouleversé, absolument bouleversé, je veux dire fracassé, je crois, par l'écriture d'une pièce comme Juste à la fin du monde, quand je l'ai entendue mise en scène par Joël Joanneau d'abord, au Théâtre de la Colline, il y a une vingtaine d'années. Ensuite, je l'ai entendu par Jean-Charles Mouveau au Théâtre Les Déchargeurs. Je l'ai entendu à nouveau au Festival d'Avignon, là, au Petit Louvre. Et je suis à chaque fois bouleversé par la violence de ce langage d'individus qui ne parviennent pas à se comprendre, qui essayent de se retrouver, de se réconcilier, qui n'y arrivent pas, qui règlent des comptes chacun à sa manière, qui ne provoquent finalement que de nouvelles guerres et qui me bouleverse totalement dans sa manière qu'il a de faire du langage le sujet même de la pièce. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec Nos, qui est une autre, tout à fait une autre forme de théâtre.
Justement, c'est ce que je rappelais en début d'émission pour nos auditeurs, parce que Nos, c'est une des premières pièces que Jean-Luc Lagarce a écrites, alors que Juste la fin du monde, c'est, je crois, beaucoup plus tard, c'est genre 95, C'est
presque une des dernières.
Oui, c'est une des dernières avec Le Pays Lointain.
Avec Le Pays Lointain qui est la, en fait, juste à la fin du monde, se retrouve dans son intégralité dans Le Pays Lointain. C'est une expérience d'ailleurs, il faut lire les deux pour voir comment tout ça est très très... très intelligent, très voilà, et très intéressant d'ailleurs d'un point de vue de l'écriture. Moi, je ne suis pas auteur, mais je trouve que cet exercice-là, alors je ne sais pas, peut-être que Pierre, tu te souviens, je ne sais pas quel est le sens. Est-ce que c'est Le Pays Lointain a été extrait juste à la fin du monde, ou est-ce que ça a commencé par Juste à la fin du monde et que ça a été agrémenté de des personnages supplémentaires? Ça, je ne me souviens plus.
Je peux vous répondre là-dessus parce que j'ai fait mon mémoire sur Le Pays Lointain. Et donc Juste la fin du monde a d'abord été écrit dans un premier temps, et en fait on aurait fait une commande à la Garce d'une pièce un peu plus importante, il me semble que c'est François Rancillac qui aurait passé cette commande, et donc d'une écriture d'une pièce sur la désillusion des années 80, voilà. Et donc la Garce aurait eu l'idée de reprendre Juste la fin du monde, mais d'y rajouter quand même ce qui est essentiel dans Le Pays Lointain, le rapport aux amours en fait. Qui n'est pas du tout, enfin qui n'est pas évoqué dans le juste, enfin qui est évoqué, qui sous-tend tout Juste la fin du monde, mais qui n'est jamais dit.
Et au fantôme, ce qui fait en fait de la pièce Juste à la fin du monde et Le Pays Lointain des pièces testamentaires, on peut dire ça, des dernières pièces, alors que Noce est une pièce de révolte, de rébellion, de jeunesse, c'est une pièce de troupe aussi, puisqu'il la monte avec les comédiens avec lesquels il travaille à l'époque, dans un élan d'une grande jeunesse et d'une grande violence.
Et donc justement, là, on est en train d'évoquer un peu ce rapport intime que vous pouvez avoir à l'œuvre. C'est vrai qu'on ne monte pas Jean-Luc Lagarce si on n'est pas touché par les récits qui contiennent toutes ces œuvres. Et donc je voudrais interroger Pierre Note justement, et vous aussi après, sur cette question entre guillemets de l'intime, de l'écriture, parce que l'écriture c'est toujours intime quand on lit, quand on écrit, c'est une part de nous qui écrit l'autre, qu'on regarde, avec qui on veut parler, même si on est seul devant sa feuille. Voilà, il y a tout un rapport comme ça, très très fort à l'autre. Et justement, Christophe Bidan, à propos de l'œuvre de Maurice Blanchot, écrit quelque chose que je trouve très beau. Il dit car l'art ne peut pas installer la vérité dans l'être, seulement son errance, et cette errance est son authenticité. Alors, en tant qu'écrivain, Pierre Note, quel rapport entretenez-vous avec l'écriture de Lagarce, si vous pouviez l'évoquer davantage, notamment dans cette question de l'errance? Parce que les pièces de Lagarce, et Noce en est aussi l'expression, ont l'impression voilà, que les personnages n'ont pas de destin déterminé. Ils sont à la recherche de quelque chose, peut-être en errance, peut-être en autre chose. Comment est-ce que vous voyez ce rapport à l'errance dans les personnages de Lagarce?
Ah, il y a beaucoup de choses dans tout ce que vous dites. D'abord, l'écriture, ce ne serait pas le rapport à l'autre, mais ce serait plutôt le rapport à l'absence de l'autre, peut-être. D'abord, l'isolement, l'éloignement, la peur de la perte de l'autre, le deuil de l'autre, c'est toujours de cela qu'il est question. Et j'ai le sentiment que chez Jean-Luc Lagarce, il est quand même beaucoup question de cela aussi, de la disparition de l'autre, de la peur de le perdre. L'autre, c'est-à-dire l'être aimé ou l'être par qui on se complète, celui qui manque... celle, évidemment, et puis tous les autres, bien sûr. Et puis la place de soi dans l'isolement par rapport au monde. Et qu'il s'agisse de Noce ou de Juste la fin du monde, c'est bien toujours de cela qu'il s'agit. C'est la place de l'être parmi les autres. Dans Noce, ils ne sont pas, me semble-t-il, sans destin et sans projet. Ils ont un projet précis qui est politique. Ils sont tous les cinq, ils ne se connaissent pas, ces personnages, dans une volonté de réparer une injustice qui leur a été faite. L'injustice terrible... de ne pas avoir été invité à la fête. Quand j'entends la fête, j'entends, encore une fois, la démocratie, l'amour, l'égalité, la fraternité. Ils ne sont pas invités à la fête. Or, ils ne voient pas pourquoi ils ne seraient pas invités à la fête, donc ils vont forcer les barrages, les uns après les autres, pour rejoindre cette fête. Ils ont un projet très très précis. Dans Juste la fin du monde, les personnages de Lagarce ont évidemment, là aussi, des projets très très précis. Et le projet, c'est d'abord la réparation, l'accomplissement, la reconstruction, la réconciliation avec les autres, avec la famille. La pièce de Noce est plutôt une pièce de colère. Noce est plutôt une pièce de colère et de haine et de hargne qui fait qu'on va forcer tous les barrages de la société pour lutter contre un espace de classe, en quelque sorte. Et cinq personnages très différents, de classes très différentes, vont lutter pour obtenir une place qu'ils ne leur aient pas accordée, tout simplement. Après, en ce qui me concerne, dans l'écriture, je pense que on a toujours affaire à des aventures humaines terribles, on a toujours affaire à des individus isolés, cassés, fracassés, en perdition, qui vont peu à peu travailler à se reconstruire, à se reconstituer. En ce qui me concerne, quand j'écris toujours plutôt de ce côté-là. D'abord dans l'isolement, ensuite dans la mise en scène grâce aux retrouvailles et au contact avec les acteurs, avec les équipes artistiques. Mais même, c'est ça que nous faisons finalement, c'est essayer de faire quelque chose ensemble plutôt que rien tout seul et essayer de construire un espace de retrouvailles, de fêtes et de réconciliation avec les autres.
Et puis j'enchaîne à nouveau sur cette question du projet que vient d'évoquer Pierre Note. Dans Juste la fin du monde, tous les projets de Louis n'aboutissent pas. Et les projets des autres personnages non plus, de retrouver une forme de connivence, peut-être d'amour avec Louis. Parce qu'il y a une complaisance, il y a la force, voilà, il y a des mensonges, il y a plein de choses qui font que tout ça est empêché.
C'est pas là, je pense, je m'arrêterai si Antoine, Suzanne, la mère et Catherine n'ont pas de projet. Je veux dire, tout est. L'arrivée de Louis déclenche, est un déclencheur, quelque chose. Il a lu, c'est une mèche qui s'allume, mais il n'y avait pas de choses prévues de la part de ces personnages-là. C'est juste à un moment donné. En plus, c'est son silence et son mutisme, cette façon si habile et détestable d'être paisible en toutes circonstances, pour citer la mère, qui va déclencher ce. Je veux dire, ce flot de paroles, d'un seul coup, cette cascade de reproches et de voilà. Mais il aurait très bien pu repartir et sans qu'il ne se passe rien. D'ailleurs, au moment où il le dit, il dit j'ai décidé de repartir à la gare, qu'on m'accompagne. Rien n'est arrivé encore, rien de grave. Le plus grave étant Antoine à la fin, qui s'est tué tout le long et qui voilà, c'est la cocotte minute qui explose à la fin du spectacle.
Mais en même temps, cette cocotte minute que vous montrez à travers le comédien Philippe Calvario, je trouve dans le jeu, n'explose pas autant qu'il pourrait exploser. On a l'impression dans son jeu qu'il y a une forme de retenue, qu'il ne veut pas abîmer Louis tout de même. Par, si on prend par exemple le film de Dolan, Juste la fin du monde, à la fin, il montre vraiment, Vincent Cassel se jette sur Gaspard Ulliel, les deux comédiens qui jouent Louis et Antoine, pour vraiment le frapper. Quoi. Pourquoi vous n'avez pas...
C'est toute la différence entre le film de Xavier Dolan et la pièce. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il faut quand même aussi signaler, il faut remettre un petit peu les choses à leur place quand même, que la pièce est réécrite à peu près à 90%. Ce qui est très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Je trouve que c'est un film réussi, mais ça n'est pas la pièce. Hein, il faut être quand même très honnête. Et la très longue réplique d'Antoine à la fin n'est qu'une grande, grande déclaration d'amour. Cette pièce est une déclaration d'amour, mais ça prend pas les chemins attendus ou la forme attendue. Et oui, il peut pas. Je veux dire. Il ne peut pas dresser son poing comme ça contre Louis, puisqu'il lui dit « j'ai encore plus peur pour toi que lorsque j'étais enfant ». Il lui dit quand même qu'il l'aime à la fin, que tout le monde l'aime et qu'ils ont passé leur temps à essayer de lui montrer, de lui prouver. Voilà. Alors ça fait réfléchir au personnage de Louis, on se dit « mais c'est peut-être ce garçon qui... » Il est peut-être en effet un petit peu complaisant avec sa propre disparition et son malheur, en fait. Interrogation. Je ne sais pas.
Et justement, il y a une dimension narrative qui est présente dans le théâtre de la Garce et qui fait toute cette difficulté lorsqu'on le monte au théâtre. C'est que les personnages ne vivent pas leur drame. Ils racontent comment est-ce qu'ils l'ont vécu, en quelque sorte. Et je me demandais comment est-ce que chacun, dans votre travail de metteur en scène, vous aviez travaillé cette dimension si particulière du jeu de la Garce, qui fait que la langue de la Garce se reconnaît entre toutes.
C'est le traitement. En fait, dans Juste la fin du monde, c'est particulièrement clair. Je veux dire, à la limite, je sais pas, il y a pas beaucoup de questions. Il y a deux temps. Il y a deux temps de narration. Il y a le temps de la représentation, dans laquelle Louis s'adresse au public et explique ce qu'il vient faire, ce qu'il a fait, ce qu'il aurait aimé faire. Et il y a le temps de la journée. Qu'il raconte. Donc voilà, c'est, j'allais dire, il faut prendre les choses comme elles vous sont proposées, et pas les détourner plus. Et voilà, je m'étais pas posé la question à l'époque, je me la suis encore moins posée là. C'était même presque plus évident. d'assumer vraiment le fait que il y a une adresse publique, voilà ce que je compte faire, voilà ce que je comptais faire, et voilà, ça ne s'est pas passé comme je pensais que ça allait se passer. Et comme les choses en disent, et puis comme un film entre deux, avec les scènes de famille, avec voilà.
Et Pierre Note, justement, dans la langue de la Garce que de Noce, j'ai trouvé que vous étiez, avec vos comédiens, dans une urgence de dire le texte qui avait tendance à relativiser les nombreuses épanorthoses que contient le texte, les corrections que font les personnages au fur et à mesure qu'ils parlent, et le tuilage qui fait que certains passages se répètent des morceaux de phrases se répètent sur plusieurs paragraphes en début ou en fin. Je trouvais que voilà, vous aviez essayé d'accélérer le rythme de la langue. Comment est-ce que vous avez travaillé
C'était pas tout à fait notre projet, mais Jean-Luc Lagarce, on s'en est rendu compte quand même très rapidement, et malheureusement beaucoup trop tard. C'est de toute évidence un des plus grands écrivains de théâtre de tous les temps, avec un certain nombre d'écrivains qui sont capables de réinventer une langue, un projet, de réinventer les codes, de les interroger tous, de reprendre les conventions pour les détourner, pour les mettre en place autrement, pour éviter ce que Coltès appelle la convention qui nécrose finalement systématiquement la représentation. Et Jean-Luc Lagarce, là dans Nos, il invente, comme il l'invente dans Juste à la fin du monde, il invente une autre convention. Il joue avec ses acteurs qui jouent à jouer. La Nos, la fête à laquelle les gens ne sont pas invités, c'est aussi la fête du théâtre, par exemple. La représentation elle-même. Donc ce sont des comédiens qui interviennent tout le temps sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils racontent. Ils sont dans la narration de leur geste, un geste unique qui est une urgence, une panique, à intégrer cette Nos à laquelle ils ne sont pas invités. Mais à part ça, on n'a que de la littérature dramatique, de la parole, du narratif, du discursif. C'est très compliqué, c'est très difficile, avec des mélanges de temps et d'espace. Ils passent des sas systématiquement pour avancer jusqu'à la noce, mais à chaque fois, ils reviennent à un autre temps. Ils parlent entre comédiens, ils parlent entre personnages, tout d'un coup, ils deviennent des figures, ils se racontent, ils racontent les autres, ils prennent la place de l'autre. C'est impossible à lire. On s'est évidemment arraché les cheveux les uns et les autres parce qu'on ne comprenait pas la pièce. On comprenait le geste de la pièce, on comprenait l'urgence, la panique, la nécessité de monter la pièce, mais la pièce était pour nous incompréhensible. Et pour la rendre compréhensible, on a souhaité, avec la compagnie, avec les cinq interprètes, les cinq comédiens qui sont des comédiens de génie, on a souhaité organiser un geste violent, un geste de panique, une chorégraphie, une vie permanente sur le plateau, une vitalité, pour faire en sorte que le geste de Lagarce, c'est-à-dire cette urgence à intégrer un espace auquel on n'est pas convié, soit perceptible, compréhensible, et qu'elle parvienne au spectateur, qu'on établisse ce rapport-là entre eux et nous, de cette urgence vitale sur le plateau d'individus qui veulent rejoindre cette noce.
Oui, parce que vous venez de l'évoquer, c'est vrai, mais il y a quand même quelque chose dans l'œuvre de Lagarce qui se situe un peu entre le lyrisme déclinant du romantisme et la cruauté un peu cadavérique d'Artaud. Comment est-ce que vous voyez ce rapport?
Mais il joue avec tout ça tout le temps et il les cite, comme Miniana cite Thomas Bernhard, mais lui, il cite tout le temps le romantisme, il cite le roman d'aventure, il cite le roman théâtral, il cite l'écriture scénique, il cite le projet collectif, dont Heiner Müller disait « Oui, le collectif, je vais aller chercher une deuxième bouteille de whisky ». Il cite tout ça, il s'amuse avec tout ça. Et on voit bien qu'il a travaillé avec ses acteurs, qu'il les faisait jouer toute la journée, que le soir, il s'isolait pour écrire la pièce. François Béreur m'a dit que la pièce avait été écrite du début à la fin par Lagarce et qu'aucun des comédiens n'était intervenu sur le texte, alors que, par ailleurs, ils jouaient, ils improvisaient, ils travaillaient, Lagarce écrivait, il remettait le texte, un texte d'une complexité vraiment infinie. Donc pour le monter, la seule possibilité, et c'était le défi pour moi, je trouve passionnant évidemment, c'était de mettre en scène la folie de ces individus, leur violence, leur révolte, la révolte des exclus qui vont foutre à sac tout ce qui les empêche de parvenir à cette noce. Mais bien sûr qu'il y a Artaud, mais pas seulement, il y a tout l'univers, il y a aussi la drôlerie, il y a aussi Jacqueline Maillan qui traîne par là, il y a les grossièretés, il y a les gags, il y a les farces, il y a les clins d'œil, il y a des choses très réservées. On a souhaité garder tout le texte, mais il y a évidemment encore probablement des phrases, des choses qui nous échappent.
Justement, sur cette question de la révolte, Jean-Charles Mouveau, j'ai trouvé que l'interprétation de la comédienne qui interprète Suzanne, qui est...
Vanessa Cayolle.
Voilà, Vanessa Cayolle était très très forte à cet endroit-là de la révolte par rapport à d'autres mises en scène.
Oui, ça c'est... Bah, je vais faire la même remarque que Pierre au sujet de sa distribution. J'ai la chance d'avoir une distribution juste extraordinaire. Vraiment d'une force incroyable, et Vanessa Cayolle avec qui j'avais déjà travaillé, mais qui vient plutôt du musical, du théâtre musical, qui en a fait beaucoup, et qui voilà, et je me disais qu'il fallait à tout prix que je la voie dans un rôle comme celui-ci, et elle est juste extraordinaire. Elle a compris le parcours, mais vous pouvez même pas imaginer, c'est-à-dire qu'à la première lecture, c'était là, déjà. Voilà, parce que je pense qu'elle était un petit peu angoissée d'aborder ce répertoire-là et ce rôle-là en particulier. Mais c'est une très grande comédienne, comme Chantal Trichet, Philippe Calvario, bien sûr, et les débuts de Gilles Kaplan aussi.
Et toi-même, dans le rôle de Louis, Jean-Charles Mouveau, il est formidable. Il est déchirant, totalement déchirant.
Et déchiré. Je vous propose.
Je voulais juste rebondir sur quelque chose par rapport à Nos. Il y a deux pièces de Lagarce qui sont symptomatiques de tout ce que vient dire Pierre et qui est très juste. C'est Nos et Les Prétendants. Voilà, ce sont deux choses. Et je pense que la difficulté est la même. Et Les Prétendants, ils sont 17 de mémoire.
Ils sont 17 et c'est une pièce d'une férocité sur le monde culturel, institutionnel,
c'est extraordinaire.
Du théâtre, irrésistible.
C'est formidable.
Ça fait un peu penser au Parisien d'Olivier Py par moment. En tout cas, au Parisien d'Olivier Py, la pièce qu'on
a pu voir. Mais on ne sait pas de qui vous parlez. De qui parlez-vous? Non, mais c'est toute une famille.
C'est toute une famille, évidemment.
Olivier Py est très lié à Jean-Luc Lagarce.
Bien sûr, il a fait partie de la troupe de Jean-Luc Lagarce, évidemment. Oui.
Donc je vous propose de faire une petite pause musicale. Donc nous allons écouter Indian Song, chantée par Jeanne Moreau, donc la chanson du film d'ouverture, donc écrit par Marguerite Duras en 75. Et donc c'est une référence importante pour Lagarce, hein, Marguerite Duras.
Et Carlos D'Alessio pour la musique.
Et Carlos D'Alessio, j'avais pas noté le nom du musicien. Merci. Voilà, petite pause et on se retrouve juste après.
Me parle d'elle son corps effacé de ses nuits, de nos nuits, de ce désir-là, de ce désir-mort. Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout, et toi qui me
Donc vous venez d'entendre Indian Song, écrit par Jeanne, enfin, chanté par Jeanne Moreau, pardon, et écrit par Marguerite Duras. Nous sommes toujours en direct et en public dans la cour de la maison Jean Villard pour une émission spéciale autour de la présence de la Garce dans le festival Off d'Avignon. Nous sommes avec Pierre Note qui met en scène Noce au théâtre du Roi René, et avec Jean-Charles Mouveau qui met en scène Juste la fin du monde au théâtre du Petit Louvre à la chapelle des Templiers. Rebonjour.
Si Rebonjour.
Je salue. La calade est toujours là. Et donc nous allons continuer d'évoquer votre travail autour des deux pièces de Jean-Luc Lagarce. Et d'abord, parler du décor. Alors, le décor, je l'ai trouvé similaire. En tout cas, je vais m'expliquer, hein, assez semblable, dans l'idée d'un espace où tous les éléments se renversent, ou en tout cas ne sont pas dans un ordre serein. Hein, il y a quelque chose comme ça, les tables. Jean-Charles Mouveau, vous faites se superposer des tables qui créent presque des tribunes ou des tréteaux. Et quant à Pierre Note, il y a une table, la table centrale de la noce, enfin, en tout cas, là, une table qui représente peut-être cette fête, voilà, est renversée. Je me trompe peut-être. Hein,
Non, pas du tout.
Et donc, cette table est renversée, voilà, et tout est renversé. C'est l'impression que j'ai eue dans votre scénographie. Le renversement de la famille, peut-être est-ce que ça symbolise cela, puisque jamais personne ne se met autour de ces tables, comme une famille unie pourrait le faire, si une famille unie existe. Et je me demandais pourquoi vous aviez fait un tel choix. Est-ce que c'était pour montrer chacun à votre façon que de toute façon, l'idéal familial était mis à mal?
En fait, décidément, l'œuvre, elle est toujours faite par celui qui la regarde, parce que je ne me retrouve pas dans ce que vous dites, mais je trouve que vous avez un très beau regard, une manière très intéressante et très jolie de voir les choses. En fait, en ce qui me concerne, pour ce qui est de la scénographie de noces, je voudrais simplement dire que les comédiens qui jouent la pièce sont Grégory Barco, Bertrand de Grémont, Eve Hersfeld, Amandine Sroussi, Paola Valentin, parce qu'ils sont fantastiques, et tout repose vraiment sur leur travail, sur leur énergie, sur leur mouvement. Ensuite, c'est une compagnie, la Porte aux Trèfles, qui n'était pas très pourvue, pas beaucoup de moyens, donc pas de costumes, on s'est débrouillé, pas véritablement de mobilier, pas vraiment de décor, pas de construction du tout. On a acheté des chaises chez Emmaüs, on s'est débrouillé, la table on l'a récupérée, on l'a un peu volée au Théâtre du Rond-Point, ensuite on a volé du scotch pour pouvoir organiser au sol un certain nombre de marques, et la table dont vous parlez, c'est plutôt d'abord une table de régie, c'est la régie des comédiens, puisque ce sont aussi les comédiens qui jouent à jouer les comédiens, qui jouent à jouer des personnages, qui jouent à jouer des figures, etc. etc. Et à un moment donné, François Béreur, qui est donc évidemment le grand spécialiste de Lagarce et qui a joué la pièce Noce, qui a joué toutes les pièces de Lagarce et qui a travaillé avec Lagarce, me dit que la clé de la pièce, c'est de savoir et de comprendre où est précisément la noce, où les comédiens regardent ensemble vers la noce. Donc on a un point qui est l'endroit de la noce, mais qui n'est pas la table. La table, elle va devenir la noce, l'espace de la noce, quand les comédiens auront franchi toutes les étapes qui leur permettent d'arriver à la noce. Et là, pour le coup, en effet, c'est la révolte des comédiens et des personnages, c'est la révolte des exclus. La table est renversée, tout ce qu'il y avait sur la table est renversé, ils volent, ils pillent, ils assassinent, ils torturent, ils massacrent. Il y a un moment de paix, et à ce moment-là, d'autres non-invités à la noce veulent rejoindre leur noce. Mais la table, en effet, l'espace domestique, là, dans Noce, il n'existe pas, puisque ce sont des personnages qui ne font qu'avancer. Sas après sas, c'est strate après strate, jusqu'à la noce à laquelle ils ne sont pas conviés, dans la violence.
Jean-Charles Mouveau sur cette question de la scénographie.
La question de la scénographie, alors pour moi, elle est très importante dans ce spectacle-là, parce que pour la simple et bonne raison que c'est la toute première fois que je travaille avec un scénographe. J'étais plus avant sur faire rentrer ce qui, au fur et à mesure du travail, s'avérait nécessaire à raconter l'histoire. Quand j'ai monté Juste la fin du monde il y a 12 ans, il y avait 5 chaises, c'est tout, sur un plateau nu. Et en fait, là, je voulais vraiment travailler avec un scénographe. Et le choix du scénographe n'est pas anodin, puisqu'il s'agit de Raymond Sarty, qui est un très grand scénographe, dans un premier temps, mais qui avait, à l'époque, fait la scénographie de la mise en scène de Rancillac, Le Pays lointain. Et j'avais envie de travailler avec lui depuis des années. Ça ne s'était pas fait sur Retour à la Citadelle. Et là, l'occasion, son emploi du temps surtout, l'a permis. Et on a travaillé pendant un an. C'est-à-dire en commençant... Moi, j'avais une idée, une envie. C'était l'idée d'une accumulation de choses. Voilà. Mais alors, il n'y avait que ce mot, hein, que ça. Et de loin en loin... On a fait beaucoup de recherches iconographiques dans la peinture contemporaine, dans les installations contemporaines. On a vu échanger beaucoup de choses. Très vite, l'objet table s'est un peu, comment dire, imposé. Et il a fallu ensuite déréaliser tout ça, en fait. Et une de mes envies aussi, c'était de donner de la hauteur à la parole. C'est-à-dire d'avoir un traitement en profondeur, en largeur, mais aussi en hauteur. Et donc voilà, petit à petit, on se retrouve à un moment donné avec des petites tables en polystyrène, toutes petites, minuscules, et on s'amuse à faire des choses, et on se dit, tiens, voilà, trouver la circulation, et voilà, comme des... Et puis j'avais envie de quelque chose de très graphique, parce que moi je viens du cinéma, en fait, je viens du dessin animé particulièrement, je suis dessinateur à la base, et j'avais envie, voilà, aussi de quelque chose... Et oui, à l'arrivée, ça raconte, c'est un chaos. Mais c'est un chaos quand même assez organisé. C'est-à-dire où voilà, les choses sont quand même très dessinées. C'est n'importe quoi. Il y a des tables à l'envers, mais dont les tiroirs s'ouvrent à l'endroit. Des tables qui rentrent les unes dans les autres. Et puis sur ce sol qui ressemble à une nappe de pétrole où on pourrait peut-être un petit peu s'enfoncer, s'engloutir et ne plus jamais revenir. Voilà.
Et les tiroirs, justement, j'aimerais revenir dessus parce que je les ai trouvés très beaux. Parce qu'ils contiennent les fameuses lettres que Louis envoie en grand nombre dans sa famille. Comment vous avez eu l'idée de ce détail, mais si important, pour mettre en abîme, finalement, cette masse de lettres enfermées dans un tiroir? Comme si, finalement, Louis était mis au tiroir. Enfin, je ne sais pas si c'est ce que vous avez voulu montrer.
Bah, oui, c'est un peu ça. Mais en fait, je vais vous répondre, ça va être très décevant. Comme il y a des tables, il y a des tiroirs. Alors je me dis, bon, s'il y a des tiroirs, on va essayer d'en faire quelque chose. Et en fait, ma première idée, c'était de les éclairer de l'intérieur pour qu'on ouvre. Les tiroirs étaient vides. Et puis il se trouve que dans le travail, la carte postale s'est avérée nécessaire. L'objet carte, voilà. Donc on a rempli tous ces tiroirs de cartes, voilà. Et en effet, ben ça raconte aussi quelque chose, ces choses qu'on a enfouies et qu'on ferme et qu'on réouvre plus.
Mais en même temps, il y a presque un rapport sacré,
oui,
comme un tabernacle.
On garde. C'est voilà. Pour ça la lumière. C'est un trésor. C'est-à-dire que c'est une illustration pour livre d'enfant. C'est-à-dire que vous ouvrez la chose et puis il y a cette lumière qui sort comme d'un coffre magique.
Et justement, on va parler de la lumière en général. Qui sont, je trouve, très très belles. En tout cas, il y a une vraie création lumière, ce qui n'est pas toujours le cas dans la plupart des spectacles. Hein. Généralement, l'éclairage, il est fait, mais il n'y a pas une création lumière au sens où on peut l'entendre. C'est Yvan Morane, je crois d'ailleurs, Jean-Charles Mouveau, qui fait votre création lumière.
C'est Yvan Morane qui a fait la création lumière de Juste à la fin du monde, qui est par ailleurs un metteur en scène et un comédien, mais qui a un amour de la lumière. Déjà pour ses propres spectacles, et donc là je lui ai demandé de faire la création lumière, et en effet il a fait un travail. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui est assez comment dire, j'imagine commun à beaucoup de spectacles, et je le souhaite, c'est qu'en fait les trois personnes, c'est-à-dire la scénographie, les costumes et la lumière, ont travaillé vraiment main dans la main, c'est-à-dire ils sont tous partis du travail de Raymond Sarty, et aussi bien aussi bien les costumes de Michel Dussara sont faits dans cette... Il y a une gamme colorée qui a été choisie, qui est très précise. Les motifs ont été créés, tous les motifs des vêtements ont été imprimés exprès, créés pour le spectacle, la gamme de couleurs aussi. Et à la fin, Yvan a habillé tout ça avec une espèce de cohérence, avec tout ce qui était présent. Ce qui fait, oui, je crois, un objet visuel assez... Voilà.
Il y a une forme de douceur, en tout cas, qui fait qu'on a l'impression, même chez vous, Pierre Note, que l'hystérie et la colère ne peuvent pas venir dans des lumières qui sont mises en place. Et donc, je me demandais si du coup, dans ce travail, la lumière avait vraiment été le prédicat, presque, pour créer le texte. Parce que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une vraie pensée, chez vous, Pierre Note aussi, hein, sur comment est-ce qu'on éclaire tout ça.
Bien sûr, en ce qui me concerne, elle est fondamentale. La lumière, elle est créée par Aaron Ola, qui signe là d'ailleurs sa première création lumière. C'est un tout jeune homme qui est régisseur là à Avignon sur plusieurs spectacles. Et la lumière, puisque nous n'avons pas de moyens, nous n'avions ni costume, ni décor, ni meubles, pas de scénographe, mais des propositions, des inventions, puis surtout un espace d'abord assez posé, assez marqué, assez délimité, qui va exploser puisque les non-invités à la noce vont tout fracasser. Il fallait en effet qu'on puisse lire les différents espaces par lesquels ils passent. Ces espaces, ce sont évidemment des lumières, ce sont évidemment des ambiances. Il y a aussi la musique, l'intervention de Nicole Croisy, qui est très présente dans le spectacle, qui s'est prêtée au jeu par sa voix, en chantant, à différents moments, une même chanson, puisque dans la pièce de Lagarce, c'était une chanson que même Lagarce ne voulait plus entendre. Il l'avait remplacée par une autre musique. Et là, la chanson que nous avons choisie est une chanson de Nicole Croisy, Mon arc-en-ciel, puisque c'est ça qu'il cherche à atteindre, c'est leur arc-en-ciel en quelque sorte. Donc il y a la musique, il y a les interventions avec le régisseur ou la régisseuse qui sont très importantes pour les comédiens de la pièce. La lumière, bien sûr, qui signifie pas seulement les espaces, qui signifie les humeurs, les couleurs, les différents moments, les différentes étapes des personnages qui arrivent peu à peu à la noce.
Justement, vous parlez de la bande sonore, je voulais vous interroger tout de suite dessus. Votre bande sonore à tous les deux dans vos spectacles est une bande sonore assez fournie. Et par là, on a l'impression que soit vous accélérez ou que vous ralentissez le cours des destins avec cette bande sonore, en même temps que cette bande sonore participe de quelques traits comiques, j'ai l'impression, dans son appréhension, en tout cas par le spectateur. Est-ce que vous pouvez nous préciser davantage le contenu, tous les deux, de cette bande sonore et l'utilisation surtout que vous en faites, parce qu'elle est aussi au centre du dispositif théâtral que vous mettez en place?
Alors moi, j'ai choisi de ne mettre qu'une seule chose au niveau son. C'est une chanson de Charles Aznavour, écrite par Gilbert Bécaud et Charles Aznavour, qui s'appelle « Je t'attends », qui... Pour moi, elle a plusieurs fonctions. C'est pas un très joli mot, mais premièrement, elle a cette particularité, cette chanson que j'ai entendue un matin sur France Inter en me réveillant, de raconter la pièce en 2 minutes 30. Voilà, c'est Je t'attends. Dans le titre, tout est dit. Et je trouvais que c'était un moment. Ça pouvait être un moment, et ça l'est, je crois. Où on résume, mais on montre aussi en pantomime, j'allais dire, l'état intérieur de tous ces personnages, en fait. Et c'est, on peut l'avouer, c'est quand même aussi une respiration. La chanson n'est pas très gaie, mais je veux dire très gaie au sens, elle bouge, si, ça veut dire, elle est dansante, oui, d'ailleurs c'est une danse dans la pièce, mais c'était aussi une façon de, et puis d'attaquer la deuxième partie. Et la plus violente partie de la pièce. Voilà. C'est un sas, si j'ose dire.
En ce qui me concerne, la musique, c'est le diable, toujours. C'est une phrase de Robert Cantarella que je trouve passionnante quand il dit que la musique au théâtre, la bande-son, c'est le diable. Parce que ça conduit le spectateur, la masse, tout d'un coup, des spectateurs, à ressentir une seule et même émotion, à la partager tous ensemble. C'est d'une facilité terrible. C'est évidemment pas le cas de Je t'attends, de Charles Aznavour. C'est un autre moment. C'est un moment précieux. Mais très souvent, on a affaire au théâtre à des metteurs en scène qui vont vous balancer une musique qui va vous tout le monde va se mettre à éprouver au même moment. C'est une manipulation dangereuse et terrible. Alors on voulait jouer avec ça, On voulait, quant à nous, avec Shostakovitch notamment, l'urgence d'un morceau de Shostakovitch, la violence du morceau, jouer avec des comédiens qui doivent lutter contre la musique, avec un public qui se trouve pris entre la musique et l'urgence des acteurs, mais les acteurs qui, à un moment donné, exigent de la régisseuse ou du régisseur qu'il interrompe et qu'il cesse avec la musique. Donc jouer aussi avec la difficulté que le comédien éprouve à essayer d'aller au bout d'une phrase, si c'est une phrase de Lagarce parce qu'elle est très compliquée, et si en plus il doit négocier avec la musique de Shostakovitch. Donc ça, ce sont plutôt des jeux pour nous. Et puis il y a des moments où vraiment on utilise le diable dans tout ce qu'il peut avoir de fédérateur, avec Mika ou avec d'autres moments très dansants, mais surtout avec Nicole Croisy, puisque revient toujours cette chanson entêtante pour les personnages de Noce, cette chanson qui dit « Mon arc-en-ciel, je l'aurai mon arc-en-ciel » alors qu'eux n'ont droit à rien et surtout pas à leur part de ciel.
Et donc j'aimerais qu'on revienne à présent, après avoir longuement parlé de la scénographie, de tout le dispositif théâtral, du personnage Lagarcien en tant que tel, qui par sa propre parole n'a de cesse de convoquer sa propre impuissance. Et il y a quelque chose de très fort chez Lagarce, et que je retrouve évidemment, puisque vous mettez très bien en scène ces textes, l'idée que finalement les personnages sont peu à peu gagnés par une folie. Une folie qui leur vient après avoir finalement vu l'échec de leur projet ou de leur non-projet défiler devant eux. Et donc les personnages de Lagarce, je trouve, quand ils parlent, redoutent sans cesse cette folie qui pourrait provoquer une perte de repère et qui de fait provoque dans l'écriture même de la pièce de nombreuses distorsions. Et je me demandais comment est-ce que vous... vous aviez saisi ou pas cette épaisseur de folie, de cette possible folie qui peut prendre et saisir les personnages dans l'appréhension scénique de Noce ou de juste la fin du monde.
Alors moi je perçois pas la folie en fait chez les personnages. J'utiliserais plutôt les mots comme urgence, comme mais la, alors c'est peut-être pas d'ailleurs, c'est peut-être plus présent dans un texte comme Noce que juste la fin du monde, où d'ailleurs on parlait des prétendants tout à l'heure, oui, où à un moment donné où les choses partent vraiment, j'allais dire partant vrille quoi, c'est-à-dire mais dans juste à la fin du monde, on n'est pas, je crois, dans cette figure-là, en fait.
Mais le cri, le fameux cri à la fin que lui ne pousse pas. Est-ce que ce n'est pas un cri de libération,
c'est le cri de Munch. C'est le tableau.
C'est le regret.
Oui, c'est
un atroce regret.
Et puis moi, j'ai toujours quoi. Je pense que la résolution de l'œuvre de Lagarce, de la totalité de l'œuvre de Lagarce, se situe dans cette scène-là. En fait, cette impossibilité de dire, ne serait-ce que même d'hurler, seul, dans la nuit, pour se libérer, en fait, définitivement. Ouais.
Mais c'est bien pour ça qu'on écrit. Parce que dire est une chose impossible, difficile. En ce qui me concerne, dans Noce, il ne s'agirait pas véritablement de la folie, mais d'une chose dont parle Lagarce beaucoup dans Du luxe et de l'impuissance, c'est la barbarie. Il évoque... souvent, beaucoup, la barbarie, mais il parle de la nôtre, de notre barbarie, de sa barbarie, de notre capacité à nous ranger du côté des assassins, à nous... La barbarie, elle est là, elle est tout le temps là. Et le travail consiste à faire en sorte de la neutraliser, ou de l'apprivoiser, ou de la transformer. Les personnages de Noce sont de véritables barbares, décivilisés, mais des barbares qui vont peu à peu passer à l'acte. Et je crois que dans Du luxe et de l'impuissance, il évoque le théâtre comme un espace d'exploration des barbaries qui sont les nôtres, qui sont partagées par
chacun
d'entre nous. La barbarie
qui est en nous, il dit. Oui.
Et donc justement, j'aimerais revenir à la dimension narrative des textes de Lagarce, et qui est évidemment celle de Juste la fin du monde et de Noce. L'idée que voilà, on a une multitude de monologues quand même dans ces pièces qui font dialogue. Et qui donne en tout cas ces monologues une autonomie à la voix de chacun. Et je me demandais, quand vous avez pensé votre mise en scène, pensé la dramaturgie, comment est-ce que vous, quelle avait été votre manière d'opérer la confrontation dialogique de ces différentes voix singulières qui s'adressent toujours à quelqu'un, mais qui sont quand même assez longues, disons, des longues adresses. Comment est-ce que vous avez travaillé l'adresse de ces longues adresses?
Mais ce sont deux formes théâtrales très différentes dans Juste à la fin du monde et dans Nos. Dans Nos, on a véritablement affaire, je crois, à des romans d'aventure. On a des longues pages de monologues d'individus qui sont pris dans cette urgence de rejoindre la Nos, de l'intégrer coûte que coûte, de dévaster autour d'eux tout ce qu'ils pourront dévaster pour pouvoir l'atteindre. Et les textes difficiles, langage extrêmement complexe, très écrit, très littéraire, en même temps très inventé, joue avec tous les codes, avec toutes les conventions, beaucoup de références. Il fallait qu'on leur donne de la vitalité. Enfin, c'est la seule chose à faire. Qu'on leur invente un temps particulier, le temps de la représentation. C'est-à-dire que du début à la fin de la pièce, on sente l'urgence, la nécessité, la folie, la barbarie de ces individus, leur impérieuse nécessité à rejoindre la noce. Et quels que soient finalement les mots, dans les monologues, moi, il me semblait que si les comédiens étaient assez puissants et assez forts, et je crois qu'ils le sont, pour nous faire comprendre leur urgence, on allait comprendre chacun de leurs mots, même si les mots semblent incompréhensibles. Le monologue n'est pas compris dans son ensemble, mais le geste est compris, la violence du geste est compris. Et il me semble qu'au théâtre, la seule chose qui nous intéresse au fond, c'est ce rapport qu'on établit entre le spectateur et l'acteur, d'où le sujet de la conférence qui a lieu tout à l'heure, au sujet de l'effort d'être spectateur, c'est-à-dire qu'il est toujours question d'essayer de faire passer cette urgence, cette nécessité, cette vitalité, cette nécessité vitale de l'acteur, quoi qu'il dise, au spectateur. Et là, comme il est question d'urgence à rejoindre une noce, à rejoindre la fête, à rejoindre l'espace interdit, là, pour le coup, on a affaire simplement à une puissance de comédien qui fait tout comprendre.
Mais quand même, Juste la fin du monde, c'est aussi un récit d'aventure. Le prologue, quand Louis n'ose pas trop bouger, de peur de réveiller l'ennemi, il y a aussi cette dimension qui quand même, je trouve, n'a pas une urgence aussi forte que dans Nos, évidemment, mais il y a quand même cette urgence qui est là. Comment est-ce que vous avez travaillé cette urgence des monologues et en même temps, cette urgence à dialoguer et à ne jamais y parvenir? Parce que vous arrivez quand même dans votre mise en scène, Jean-Charles Mouveau, à faire entendre cette urgence et à montrer finalement que rien ne s'est passé. Qu'on vient de voir une pièce d'une heure et demie. Mais que rien ne s'est passé. Comment est-ce que vous avez fait dans votre dramaturgie? Parce qu'il y a des très mauvaises mises en scène de ce texte, hein. Il faut le préciser, qui n'arrivent pas, qui n'atteignent pas cette...
Mais vous savez, ça c'est aussi simple que... Je veux dire, c'est les acteurs, ça. Non, moi, je sais pas quoi. J'ai un amour immense des acteurs, vraiment. Et après, comment on traite ça? Ben, là aussi, il y a deux choses différentes dans Juste à la fin du monde. C'est-à-dire, il y a le traitement de Louis, c'est-à-dire qui lui a des monologues, et on a le traitement des autres qui ont, oui, certes, des répliques qui font 8 pages, mais ce sont des répliques. Donc, ce sont des choses qui sont totalement adressées. Et le piège. De par le style, j'allais dire la garce, l'écriture, c'est pas un joli mot, mais c'est qu'on pourrait formaliser tout ça. Et en fait, c'est aller chercher dans cette langue qui n'existe pas, en fin de compte. Je veux dire, comment la garce peut faire parler Antoine comme ça? Je veux dire, on nous le présente quand même comme un personnage qui n'apporterait pas plus de vocabulaire que ça, qui travaille dans une usine, il est ouvrier, sa femme sait à peine ce qu'il fait, elle pourrait, voilà. Et à la fin, il lui fait dire, sûrement une des plus belles répliques du théâtre. Les jeunes comédiens, maintenant, ont un rêve, quoi, deux rêves. C'est jouer Richard III et Antoine dans Juste à la fin du monde. Voilà. Alors moi, je l'aborde de manière très, très simple, je l'aborde avec des comédiens, et voilà, il y a aussi le rythme qui implique l'écriture. Ramener de la trivialité dans ça, et pas formaliser les choses, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas avec une espèce de déférence absolue sur l'écriture, où on prendrait les choses comme ça un petit peu avec des pincettes, et un petit peu... Et voilà, injecter de la vie et du théâtre quoi, dans ces répliques-là. Voilà.
Et donc pour terminer, une dernière question, justement, plus générale, disons, sur l'œuvre de Lagarce, qui ne concerne pas spécifiquement Nos et Juste la fin du monde. Dans les textes de Lagarce, il y a des rapports, il y a des sujets de société très graves qui sont évoqués, des faits qui sont encore présents dans nos sociétés, qui sont dispersés dans les pièces. à tel point je trouve que les histoires qui sont racontées ne sont pas des anecdotes, mais bien des mythes, des mythes fondateurs de notre modernité. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à vos pièces que vous montez ou votre connaissance de l'œuvre de Lagarce? Est-ce que ce qu'il raconte, je ne sais pas moi, le rapport aux années SIDA, par exemple, dans Nos, il y a des questions d'abus sexuels. Si j'ai bien compris la pièce, et encore, tout ça n'est pas dit très clairement.
En fait, dans Nos, chacun a un désir particulier de rejoindre la fête. Il y en a une qui veut passer à la casserole. Il y en a un autre qui veut accéder à un rang social auquel il n'a jamais eu droit. Il y en a une qui veut porter des habits nouveaux. Il y en a un autre qui veut trouver l'amour. En fait, mais tout ça, c'est l'anecdote, c'est ce qui fait la fable. La fable que je trouve fantastique de la part de cet auteur dramatique, qui depuis une fable, cette trouvaille de 5 individus qui ne se connaissent pas mais qui se lient ensemble, qui se liguent pour rejoindre la noce, cette fable, elle se rapproche évidemment du mythe de cette quête acharnée d'individus exclus qui vont tout faire par la violence, mais pas seulement, par la séduction, par la violence, par la putasserie, par divers moyens qui vont tout faire pour essayer d'arriver à leur fin. Et c'est magnifique. Après, moi, c'est la langue de Lagarce qui me sidère à chaque fois que je l'entends et à chaque fois que nous y travaillons. C'est à chaque fois des choses tellement essentielles, tellement fondamentales sur la famille, sur l'autre, la place de l'autre, comment se dit l'amour, comment l'amour ne peut pas être dit, le malheur que l'on porte, la douleur que l'on porte, la difficulté à être avec l'autre, la difficulté à crier quand il faut pouvoir crier, pour finir dans la solitude, dans le regret, dans le repli, parce que le cri est une chose trop difficile.
Rien ne se dit facilement, comme le dit Antoine.
Rien ici ne se dit facilement. Oui, pour ajouter à ce que vient de dire Pierre, c'est tous ces sujets dont vous parliez tout à l'heure qui ne sont pas clairement nommés, comme évidemment l'homosexualité, comme encore maintenant, aujourd'hui, c'est pas faire trop parisien non plus, mais en province, on pourrait dire comment l'homosexualité est acceptée, même encore peut-être la maladie, tout ce qui tourne autour, le déterminisme social, c'est-à-dire on est de quelque part et on y reste. C'est le texte de ce fameux texte, la Retour à Reims, qui traite de ça. On a l'impression que c'est le texte théorique de Juste à la fin du monde, ce texte-là. Oui, il y a tous ces sujets-là, et encore plus dans Du luxe et de l'impuissance, mais qui n'est pas un texte théâtral, donc voilà. Ou alors là, il balaye tout, quoi. Il balaye vraiment tout.
Alors je vais rappeler les dates et les personnes qui sont concernées par vos spectacles. Donc Pierre Note, vous montez toujours avec la compagnie Les gens qui tombent, Nos.
En fait, c'est la compagnie Porte au Trèfle. Les gens qui tombent, c'est ma compagnie qui fait d'autres choses au festival, d'accord, mais pas Nos.
Alors jusqu'au 30 juillet, c'est au Théâtre du Roi René avec Grégory Barco, Bertrand Desgrémont, Ève Hersfeld, Amandine Sroussi et Paola Valentin. Oui. Jean-Charles Mouveau, toujours avec l'équipe de Nuit et Comment 14, Juste la fin du monde, avec Chantal Trichet, Gilles Kaplan, Jean-Charles Mouveau vous-même, Philippe Carvalho et Vanessa Cayol, au Petit Louvre, Chapelle des Templiers, à 19h35. Et je rappelle que ce soir, Pierre Note, vous lirez un extrait de votre texte, L'effort d'être spectateur, qui est paru au Solitaire intempestif l'année dernière. À signaler également pour l'actualité de Lagarce, la mise en scène de Clermont-Hervieux-Léger à la rentrée au Théâtre de l'Odéon du Pays Lointain, qui je pense sera aussi très intéressante. Et à signaler également dans le off un autre texte de Lagarce qui est mis en scène, que je n'ai pas eu l'occasion d'aller voir, et c'est sans doute pour cela que la metteuse en scène n'est pas avec nous, je ne sais pas si vous la connaissez, Les règles du savoir-vivre dans la société moderne. Donc c'est Agnès Rigolo qui met ce texte en scène de la compagnie Du jour au lendemain. Je n'ai pas relevé le théâtre.
C'est au Théâtre du Balcon.
Théâtre du Balcon, voilà, merci. Et à signaler également, encore une fois, une actualité importante. Vous avez parlé de François Béreur. Il va reprendre, je crois, pour la deuxième fois, dès la rentrée prochaine, La cantatrice chauve, donc à partir de la création de Jean-Luc Lagarce. Donc le spectacle est recréé au CDN de Besançon dès la rentrée. Vous avez des informations sur ce travail?
C'est pas à partir d'eux, c'est exactement la mise en scène de Lagarce, en fait. Et il l'avait reprise à l'Athénée il y a quelques temps. Et en fait, il n'y avait évidemment aucune note, mais tous les comédiens ont comme si cette mise en scène était inscrite dans leurs jambes et dans leurs gestes. Ils ont retrouvé en direct tout le parcours de la pièce. C'est un très beau travail, moi, que j'ai vu à l'Athénée et que je vais revoir avec plaisir cette année.
Eh bien, merci d'avoir été nos invités. Donc, pour ce qui est de la radio L'Écho des Planches, c'était notre dernier direct depuis l'accalade de la Maison Jean Villard pour ce festival d'Avignon, 71e édition, et pour le festival OFF, 51e édition. Demain, il y a encore une émission qui passera sur nos ondes, l'émission d'Emmanuel Serafini. Je tiens à remercier particulièrement pour tout ce que nous avons pu accomplir Luc Magrina, qui est dans le public ici présent et qui est le président de notre radio, pour son travail d'accompagnement. Antoine Maignan à la technique, qui suit inlassablement les micros avec ses fadeurs. Remercier toute l'équipe de l'Écho des Planches de ce qu'on a fait, voilà, du travail qu'on a accompli ce mois de festival très intense, et très intense au niveau, voilà, des rapports qu'on a aussi entre êtres humains, et ça c'est le plus important à Avignon, sans doute beaucoup plus important que les spectacles. Voilà, merci à tous, et pour se quitter, on écoute une chanson assez drôle, une chanson des Carolina Chocolate Dwops qui s'appelle Boodly Di Bum Bum.
Ben Curry is the guy who wrote this song, we think, Boodly Bum Bum. But let's hear a live performance from the Carolina Chocolate Drops.
All right.
I went down in the alley trying to sell my coal today. I went down in the alley trying to sell my coal today. When a woman come out and hollered, scared my mule away. She had the boodly bomb bomb. She had the boodly bomb bomb. She had the boodly bomb, boodly bomb, boodly bomb bomb. I went down with Iceman Jackson to sell his ice and coal. I went down with Iceman Jackson to sell his ice and coal. But he's spending all his money buying sweet jelly roll. He had the boodly bomb bomb. He had the boodly bomb bomb. He had the boodly bomb, boodly bomb, boodly bomb bomb. Central, just two blocks west of state. We went down on 18th Central, just two blocks west of state. And he saw them pretty women, man, he could not wait. He had the boodly bomb bomb. He had the boodly bomb bomb. He had the boodly, boodly, boodly bomb bomb. She said, money don't excite me, and that we all know well. She said, money don't excite me, and that we all know well. Know what happened? Jackson pulled out $100. Man, she almost fell. She had the boodly bomb bomb. She had the boodly bomb bomb. Jackson get a boodly, boodly, boodly bomb bomb.
Tell about it. Sort of one was there.
she grabbed his big paycheck, said, "Gals, I had some fun. I had the boodly bomb bomb. I got the boodly bomb bomb. I got this boodly, boodly, boodly bomb bomb."